Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Vion à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 13 février 2023. Au Gabon, début de la concertation politique entre la majorité et l'opposition. Ouverture au Tchad d'un procès collectif de près de 500 rebelles accusés dans le meurtre de l'ancien président Idriss Déby Itno. Nouvelle semaine sanglante au Burkina Faso, endeuillée par les violences djihadistes. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la radio.
À la Sainte Cité, pense que la radio est un puissant outil qui, si elle est bien utilisée, peut contribuer à promouvoir la paix au Mali.
Reportage à suivre dans la partie magazine avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Pékin accuse à son tour des ballons américains de violer son espace aérien. Washington dément. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Gabon, coup d'envoi ce matin à Libreville d'une concertation de la classe politique sur la transparence électorale. Pouvoir et opposition, 10 jours pour écrire une nouvelle page du système électoral du pays. Un pari engagé devant un parterre d'invités autour du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ce dernier annonce sa volonté de revenir au quinquennat pour tous les mandats électifs. Le compte-rendu de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Les partis politiques légalement constitués, le corps diplomatique accrédité à Libreville et quelques médias nationaux et internationaux triés sur le volet ont assisté à la cérémonie inaugurale de la concertation politique du Gabon. Ce rendez-vous acte une promesse présidentielle sur la transparence électorale avec des lendemains apaisés. Ali Bongo Ondimba a donné le ton des discussions avec une annonce forte, la limitation de tout mandat électif à 5 ans. En rappel, le mandat présidentiel notamment était jusque-là de 7 ans. Aussi pour le chef d'État gabonais, les objectifs des présents assises sont clairs. Organiser des élections sans contestation afin que la paix et la concorde règnent dans le pays. Dès ce mardi, opposition et majorité sont invités à produire une liste de 30 membres chacune à l'effet de constituer une commission technique devant travailler à la réforme du système électoral gabonais. 10 jours, c'est le temps imparti à la classe politique pour élaborer un texte consensuel, mais à peine sorti du palais présidentiel, les premières divisions apparaissent dans les rangs d'une opposition incapable de s'entendre sur la qualité de ses représentants invités au dialogue préélectoral. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des miliciens ont tué 22 personnes lors de 2 attaques distinctes dans la province de l'Ituri dimanche et lundi, selon un responsable local et un groupe de défense des droits de l'homme. La première attaque de dimanche a eu lieu dans la ville de Mongbualou, dans le territoire de Djougou, où 10 personnes ont été tuées. Le maire de la localité a imputé l'attaque au Codeco, l'une des nombreuses milices opérant dans l'est de la RDC. La deuxième attaque s'est produite non loin du territoire d'Irumu, dans la nuit de dimanche à lundi. Christophe Mounian-Derour, coordinateur du groupe local de la Convention pour le respect des droits de l'homme, a déclaré que 12 villageois ont été tués. Il a accusé les forces démocratiques alliées d'être à l'origine de cette tuerie. Au Burkina Faso, au moins 19 civils, dont 9 supplétifs de l'armée, ont été tués lors de 2 attaques perpétrées jeudi et dimanche dans le nord-ouest et l'est du Burkina Faso. Claire Morin-Gibou.
C'est aux alentours de 16h temps universel hier qu'un groupe de terroristes a attaqué les populations de Yaranga-Tanga dans l'Est, a témoigné un habitant, ajoutant qu'au moins 10 hommes ont été lâchement assassinés. 2 VDP, les supplétifs de l'armée sont morts alors qu'ils tentaient de s'opposer à cette incursion, toujours selon ce témoignage. L'attaque a été confirmée par un responsable local, évoquant de son côté un bilan de 13 morts et de nombreux dégâts matériels, sans plus de détails. C'est la 3e fois que Yaranga Tanga est prise pour cible en un mois. Le commissaire de la ville y a été tué dans une embuscade le 1er février. Jeudi, un raid d'une 100aine d'hommes armés a frappé la localité de Dembo de l'autre côté du Burkina Faso dans le nord-ouest. Les affrontements ont duré plus de 3 heures et 7 VDP sont morts. Un détachement militaire venu de Nouna, le chef-lieu de la province de la Kossi, a été déployé vendredi. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se multiplient ces dernières semaines au Burkina. En comptant ces 2 attaques, 60aine de personnes sont mortes la semaine dernière et 50aine la semaine précédente.
L'opposition togolaise refait surface. L'Alliance nationale pour le changement, l'un des grands partis politiques, a tenu dimanche un meeting à Lomé, rassemblement visant à mobiliser ses militants pour les élections législatives et régionales prévues cette année. Les rassemblements de l'opposition sont rares, ces manifestations étant souvent interdites depuis mars 2020 après la découverte du premier cas de Covid au Togo. Le tribunal chargé de juger l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz pour enrichissement illicite a suspendu ses audiences pour 15 jours ce lundi, dernière péripétie de la bataille de procédure en cours depuis le début de ce procès historique. La Cour a accédé à une requête de la défense de M. Aziz qui conteste la constitutionnalité de certains articles sur lesquels repose la procédure et entend saisir le Conseil constitutionnel. Au Tchad, ouverture à huis clos ce lundi du procès collectif de 454 rebelles présumés accusés de l'assassinat de l'ancien président Idriss Déby, tué lors d'une offensive en 2021. L'audience a été ajournée à mercredi. Nathalie Barge.
L'audience de la chambre criminelle de la cour d'appel de N'Djamena à huis clos dans la prison de Klessoum a été ajournée à mercredi, aussitôt après la lecture de l'acte d'accusation. Le procès a été annoncé quelques jours avant son ouverture. Les avocats ont protesté devant ce court délai, soulignant que le volumineux dossier leur a été transmis à la dernière minute. Le procès a été renvoyé afin que chaque prévenu soit assisté par un avocat, a déclaré le procureur général Mahamat Abanana. Selon des avocats, 386 des accusés étaient présents à l'audience. Ils comparaissent pour terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants, atteinte à la sûreté nationale et la mort du président Idriss Déby lors de l'offensive des rebelles du FACT en avril 2021. Lors d'un dialogue de réconciliation nationale l'an dernier, Mahamat Déby avait promis de libérer les éléments du FACT. Or, nous avons appris aujourd'hui qu'ils seront jugés pour terrorisme, a déploré Mahamat Nour Ahmed Ibedou, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Ce procès survient 2 mois après que 262 personnes sur 401 accusées, dont 80 mineurs, ont été condamnées à de lourdes peines de prison après avoir été arrêtées dans le cadre d'une manifestation violemment réprimée par l'armée, ayant fait une cinquantaine de morts. Ce procès de masse s'est tenu sans avocat dans la prison de Korotoro, en plein désert, à 600 km de N'Djamena.
Un yacht et 2 propriétés appartenant au vice-président de Guinée équatoriale ont été saisies en Afrique du Sud dans le cadre d'un jugement sur une affaire d'arrestation illégale et de torture d'un homme d'affaires sud-africain. 2 maisons ont été saisies au Cap il y a 2 semaines et un yacht de luxe mardi dernier a fait savoir ce lundi. Errol Elson, l'avocat de l'homme d'affaires en question, l'homme d'affaires sud-africain Daniel Janvé van Rensburg.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine accuse les États-Unis d'envoyer illégalement des ballons au-dessus de son territoire, des allégations niées par Washington. Ces accusations interviennent dans un contexte de tension entre les deux pays après le survol du sol américain par un engin chinois. Yacouba Ouedraogo.
D'après un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Weibin, depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé le territoire de la Chine à plus de 10 reprises sans autorisation. Faux, rétorquent la Maison-Blanche et le département d'État, accusant en retour la Chine de tenter de limiter les dégâts liés à son propre programme de ballons espions. Les relations entre Washington et Pékin sont tendues depuis le survol du territoire américain par un ballon chinois abattu début février par l'US Air Force. L'affaire de cet aérostat, présenté par Pékin comme un engin civil destiné à effectuer des relevés météorologiques, a poussé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à reporter in extremis une visite prévue en Chine. Depuis cet incident, d'autres objets volants ont été aperçus au-dessus du Canada et des États-Unis avant d'être abattus. La nature de ces engins et leur appartenance ne sont pour l'heure pas connues. Des médias chinois ont rapporté qu'un objet volant non identifié a été repéré au large de la Chine sur sa côte est et que l'armée se préparait à l'abattre.
Les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement la Russie en raison de la guerre en Ukraine et du risque d'arrestation arbitraire ou de harcèlement par les forces de l'ordre du pays. Les services de sécurité russes ont arrêté des citoyens américains sur la base d'accusations fallacieuses, ont ciblé des citoyens américains en Russie pour les détenir et les harceler, leur ont refusé un traitement équitable et transparent et les ont condamnés lors de procès secrets ou sans présenter de preuves crédibles, selon l'ambassade des États-Unis. Le Kremlin a déclaré que ce n'était pas la première fois que des citoyens américains étaient invités à quitter la Russie. Le dernier avertissement public de ce type remonte à septembre après que le président Vladimir Poutine a ordonné une mobilisation partielle. Et puis le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aujourd'hui qu'il s'attendait à ce que la question des livraisons d'avions à l'Ukraine soit abordée lors de la prochaine réunion des ministres de la Défense de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui débutera demain mardi. Jens Stoltenberg a également souligné que fournir des avions à l'Ukraine ne signifie pas que l'OTAN prend part au conflit.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
Le président du Botswana a prévenu dimanche que son pays pourrait rompre ses liens avec le géant du diamant sud-africain De Beers si les discussions pour renégocier un accord de vente s'avéraient défavorables pour son pays. En vertu de l'accord de 2011, la compagnie minière recevait 90% des diamants bruts produits, tandis que le Botswana, premier producteur de diamants d'Afrique, en recevait 10%. En 2020, la part du Botswana a été portée à 25%. Le plus grand élevage de rhinocéros au monde, situé en Afrique du Sud, sera mis aux enchères en avril. Le propriétaire, John Hume, ploie sous des coûts exorbitants pour son entretien. Ouvert en 2009, cet élevage, dans une propriété de 8500 hectares dans le nord-ouest du pays, compte aujourd'hui plus de 2000 rhinocéros blancs et emploie une centaine de personnes. Le gouvernement éthiopien a annoncé le 9 février la vente de 45% du capital de l'opérateur des télécommunications Ethio-Telecom. Lancée en juin 2021, la privatisation partielle d'Ethio-Telecom, entreprise publique à 100%, avait finalement été reportée sine die en mars 2022 en raison des récents développements et changements macroéconomiques rapides dans le monde et dans le pays, selon un communiqué du ministère éthiopien des Finances cité par Jeune Afrique.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
On commence par les matchs interclubs de la CAF disputés ce week-end.
Oui, en Coupe CAF, début réussi pour le tout-puissant Mazembe, 3-1. Devant les Maliens de l'AS Real de Bamako, les Corbeaux partagent la première place du groupe D avec les Tunisiens de l'US Monastir qui ont battu 2-0 les Tanzaniens de Young Africans. Dans la poule B, ce sont les Diables Noirs du Congo qui sont en tête après leur victoire 3-0 sur les Nigériens de Rivers. Ils comptent 2 points de plus que le Daring Club Motema Pembe qui a accroché la SEC Mimosa 0-0. A noter aussi le succès de Marumo Gallant d'Afrique du Sud, 4-1 sur les Libyens d'Al Akhdar et le nul 1-1 entre les Togolais de Lasco de Kara et les Égyptiens du futur FC.
Première journée également en Ligue des Champions.
Dans le groupe C, le Oroya de Conakry, seul représentant de l'Afrique de l'Ouest, a fait le service minimum 1-0 devant les Tanzaniens de Simba, d'où la satisfaction du défenseur malien du Oroya, Isiaka Samaki.
Satisfait, mais rien n'est fait. On a joué contre une équipe pas des plus expérimentés que nous, mais nous on est plus expérimentés que nous. On peut dire qu'ils se sont bien organisés que nous. Et sur le plan physique, je pense qu'on a répondu. Notre temps fort, on a pu marquer. Et le temps faible, on a pu défendre. Je pense que c'est une bonne chose, parce que si tu ne marques pas, il ne faut pas encaisser. Ça, c'est notre marque de fabrique. Je pense qu'on va continuer sur ça. Avec ça, on pourra aller loin encore.
Isiaka Samake, défenseur malien du Oroya. Les Guinéens sont deuxièmes du groupe C à égalité de points avec les Marocains du Raja Casablanca, qui ont laminé 5-0 les Ougandais du Vipers. Dans la poule C, les Algériens du CR Belouizdad ont surpris le Zamalek au Caire 1-0. Même score pour l'Espérance de Tunis dans l'autre match de cette poule devant les Soudanais d'Al Merrekh. Dans le groupe B, un seul match joué et remporté par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, vainqueur 1-0 des Soudanais d'Al Hilal. La rencontre entre Al Ahly d'Égypte et le Coton Sport de Garoua a été reportée au samedi 4 mars en raison de la participation des Égyptiens au Mondial des clubs. Pareil pour le Wydad de Casablanca, dont la rencontre contre l'AS Vita Club sera disputée le vendredi 3 mars. Le seul match de cette poule s'est soldé par un score de 0-0 entre les Algériens de la JS Kabylie et les Angolais de Petro Atlético de Luanda.
Ici aux États-Unis, nous parlons de football américain. Les Chiefs remportent le Super Bowl.
Les Kansas City Chiefs, guidés par Patrick Mahomes, surmontant une cheville douloureuse, ont décroché le troisième Super Bowl de leur histoire en battant 38-35 les Eagles de Philadelphie à Glendale, en Arizona, également sacré en 1970 et 2020. L'équipe du Missouri succède au palmarès aux Los Angeles Rams. Un match qui s'est joué sur un coup de pied victorieux, un show de la mi-temps avec Rihanna enceinte, un hymne national qui arrache des larmes aux joueurs. Ce sont là quelques temps forts de ce 57e Super Bowl.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Ce 13 février, le Mali, à l'instar du monde entier, a célébré la 12e édition de la Journée mondiale de la radio. Le thème retenu cette année, Radio et Paix, intéresse au premier chef le Mali qui traverse une situation de crise depuis plusieurs années. Comment la radio peut contribuer à ramener la paix au Mali? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
À partir de son téléphone, Tidiane Bamadio s'informe. Selon lui, en plus de son aspect pratique, comparé aux autres médiums, la radio informe, éduque et sensibilise.
La radio, elle est vraiment un outil de communication, un outil d'éducation, de sensibilisation, surtout les grandes masses.
Naviguant entre différentes fréquences pour se tenir informé en temps réel, Alassane Cissé pense que la radio est un puissant outil qui, si elle est bien utilisée, peut contribuer à promouvoir la paix au Mali.
La radio peut contribuer à la paix parce que quand ils organisent des débats autour des différentes thématiques sur la paix, en invitant les différentes ethnies à parler de leurs problèmes et trouver des solutions, moi je trouve que ça, la radio a vraiment a contribué à apporter la paix. Parce que
dans la salle de rédaction et le couloir du studio Tamani, les journalistes et techniciens sont au four et au moulin pour informer en cinq langues leurs auditeurs dans tout le pays. Mohamed Touré, rédacteur en chef de Studio Tamani.
Il est important de mettre en avant l'information de proximité. Il est important également de prendre en compte toutes les voix du Mali. De façon générale, nous, hommes de radio, notre rôle, ça consiste tout simplement à rassembler les avis des uns et des autres et à les diffuser afin que chacun puisse mieux comprendre les positions des uns et des autres, mais également les propositions de solutions faites par les uns et les autres.
Cette journée du 13 février a été une occasion pour le studio Tamani de regrouper journalistes, techniciens et auditeurs au sein de la maison de la presse avec un objectif spécifique, adapter le contenu à l'attente des populations. Mohamed Touré.
Il est souvent important, nous on parle généralement et c'est eux qui écoutent. Il est souvent très important que nous les écoutons également pour pouvoir mieux comprendre leurs préoccupations et fournir de l'information qui pourrait peut-être être une solution à ces préoccupations.
À l'instar de Studio Tamani, elles sont nombreuses, les radios du Mali qui depuis le début de la crise travaillent à instaurer un climat de vivre ensemble. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Les militants des droits humains et les partis d'opposition en Ouganda dénoncent la décision du gouvernement de fermer le bureau des droits de l'homme de l'ONU dans le pays. De Kampala, le reportage d'Alima Atoumani, le récit est de Blanche Sanou.
Le bureau de Kampala du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a été créé en 2006 pour se concentrer sur la situation des droits de l'homme dans les zones touchées par le conflit dans le nord et l'est du pays. Les activités du bureau ont ensuite été étendues au reste de l'Ouganda. Le 9 février, le mandat du bureau des droits de l'homme de l'ONU a effectivement pris fin, 3 ans après que l'Ouganda l'a renouvelé pour la dernière fois. Une lettre du gouvernement datée du 3 février indique que l'Ouganda ne va pas renouveler le mandat car la paix règne. Le pays dispose de solides institutions de droits de l'homme et d'une société civile qui peut surveiller, promouvoir et protéger les droits de l'homme. Mais des groupes de défense des droits de l'homme protestent contre cette décision. Livingstone Sewanyana est un militant ougandais des droits de l'homme.
Ces deux dernières années, nous sommes conscients que la société civile ougandaise s'est affaiblie. L'espace civique s'est rétréci. De plus en plus, nous sommes également conscients que la capacité de la Commission ougandaise des droits de l'homme a augmenté de moins en moins. Il est temps de reconstruire cela.
En février 2021, après les élections générales en Ouganda, Bobi Wine, le chef de la plateforme d'opposition du Parti de l'Unité nationale, a remis une pétition au Bureau des droits de l'homme des Nations unies à Kampala. La pétition vise à protester contre les violations des droits humains et les enlèvements de ses partisans à l'approche et après l'élection présidentielle de cette année-là, remportée par le président Yoweri Museveni. Des journalistes couvrant la pétition ont été battus devant le bureau. S'adressant à VOA, Bobi Wine dit que les enlèvements continuent. Il dit que son parti n'a aucune confiance au bureau de la Commission nationale des droits de l'homme pour rendre justice aux victimes et à leurs familles.
Je ne suis pas surpris et je pense qu'aucun Ougandais ne devrait être surpris. C'est le mode opératoire du général Museveni. Chaque fois qu'il sera appelé à rendre des comptes concernant des violations des droits de l'homme, il réagira de manière plutôt inquiétante.
Réagissant à la fermeture, Nathalie Brown, l'ambassadrice des États-Unis en Ouganda, a déclaré que les citoyens devaient veiller au respect des droits de l'homme.
Il existe de nombreuses façons de protéger ces droits. Ils peuvent être inscrits dans la loi, mais nous devons faire respecter la loi. Et nous devons obliger les forces de sécurité, les élus et ceux qui occupent des postes exécutifs à rendre des comptes lorsque les droits des individus sont violés.
Le gouvernement ougandais a déclaré que malgré la fermeture du bureau de Kampala, il poursuivra sa coopération avec les responsables des droits de l'homme de l'ONU par l'intermédiaire de leur siège ou de leur mission permanente à Genève.
En un an de guerre, la Russie a occupé puis perdu de vastes étendues de l'Ukraine et elle semble maintenant tenter de reprendre une partie du même territoire. Les familles restées dans les zones en guerre racontent que les pertes qu'elles ont déjà subies sont énormes. Le reportage d'Ida Murdoch depuis la région ukrainienne Oblast de Kherson, le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Lorsqu'il était occupé par la Russie l'année dernière, ce village, Pravdin, dans l'oblast de Kherson, a été encerclé par l'armée ukrainienne et engagé dans de violents combats. Viktor Sazunovitch est un habitant du village de Pravdin.
La ligne de front est passée juste ici. Les Russes se tenaient ici, partout dans la rue.
Une grande partie de la zone a été détruite ou jalonnée de mines, mais l'Ukraine contrôle maintenant la province. Des mannequins mis en place par les troupes russes pour effrayer les forces ukrainiennes ne montent plus la garde contre personne. Un rappel que, sur le terrain, même la guerre de haute technologie consiste principalement de jeunes hommes qui se battent pour survivre. C'est l'aéroport juste à l'extérieur de la ville de Kherson. Le niveau de destruction ici a atteint un niveau inouï. Chaque camp a attaqué l'aéroport plusieurs fois. Tous deux préféreraient le voir en ruine plutôt qu'être utile à l'ennemi. À l'intérieur de cette capitale provinciale, des panneaux de signalisation déclarent que Kherson est une ville héroïque et ajoutent « Famille, vous êtes libre ». Les bombes tombent encore jour et nuit, mais la majeure partie de la ville est toujours debout. Les personnes restées sur place disent que la grande majorité des habitants ont fui il y a longtemps. Certains se sont échappés lorsque les Russes ont pris le relais. D'autres sont partis avec les Russes lorsque l'Ukraine a repris la ville. Les forces russes ne sont qu'à quelques kilomètres de là et les personnes restantes disent qu'elles n'ont nulle part où aller ou qu'elles ont été déplacées dans des endroits encore plus dangereux. Olenia Ignatenko est une personne déplacée rencontrée à Kherson.
Nous sommes ici à Kherson depuis 6 mois et nous ne sommes allés chez nous qu'une seule fois. Maintenant, il n'y a plus de route parce que le pont a été détruit.
Olena Ignatenko est également originaire de Pravdin, où la plupart des maisons sont vides ou détruites. De nouveau, Viktor Sazunovitch de Pravdin.
Il y a eu bien pire ici. On nous a tiré dessus à plusieurs reprises. J'ai réparé les fenêtres encore et encore avant que la maison ne soit détruite. Donc, il y a eu des jours bien pires ici. Le pire jour, c'est quand j'ai vu des chars russes entrer dans le village.
Il ne reste plus que des carcasses de chars russes dans le village, mais Viktor Sazunovitch dit que c'est un peu réconfortant alors que tant de choses ont été perdues. Et après une année complète de guerre ici en Ukraine, les habitants disent que même si cela se termine demain, le niveau de dévastation ici est énorme.
« Des avions de chasse américains ont abattu deux autres objets survolant les territoires des États-Unis et du Canada au cours du week-end. Bien qu'une analyse complète des débris soit nécessaire, un sénateur démocrate de premier plan déclare qu'il s'agit de ballons similaires à un ballon chinois abattu il y a une semaine. C'est un reportage de Veronica Balderas Iglesias de la VOA rendu par Nani Talani.
Après que les dirigeants américains et canadiens ont donné le feu vert, des avions de chasse américains F-22 ont abattu deux autres objets qui naviguaient au-dessus de l'Amérique du Nord. Après avoir été informé par le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, le sénateur démocrate Chuck Schumer a déclaré dans l'émission This Week d'ABC qu'on croit désormais qu'il s'agit de ballons, mais pas aussi gros que le ballon espion chinois abattu la semaine précédente.
Il est beaucoup plus petit que le premier. Les deux, un au-dessus du Canada, un autre au-dessus de l'Alaska, étaient à 40 000 pieds. Il a été immédiatement déterminé que c'était un danger pour les avions commerciaux.
Pour en savoir plus sur les capacités des trois engins, une analyse complète des débris devra être réalisée. Il y a encore trop de questions sans réponse, a souligné le représentant démocrate Jim Himes lors d'un entretien avec NBC.
Je suis vraiment préoccupé que l'administration ne soit pas plus ouverte avec tout ce qu'elle sait. Mais une partie du problème ici est que les deuxième et troisième objets ont été abattus dans des endroits très éloignés, dont je suppose qu'il n'y a tout simplement pas encore beaucoup d'informations à partager.
Compte tenu des circonstances, les systèmes de défense américains devraient être renforcés, a déclaré le représentant républicain Mark Turner à CNN.
Nous n'avons pas vraiment de système radar adéquat. Nous n'avons certainement pas de système de défense antimissile intégré. Nous allons devoir commencer à considérer l'espace aérien des États-Unis comme celui que nous devons défendre.
Le représentant républicain James Comer a de son côté confié à ABC qu'il est heureux que le gouvernement Biden prennent la question au sérieux, mais qu'il y a de plus gros problèmes à résoudre avec la Chine.
Leur armée continue de croître et de se développer alors qu'elle poursuit son initiative ceinture et route partout dans le monde où elle essaie de créer une économie mondiale dominante.
James Comer faisait référence aux investissements controversés de la Chine dans des projets d'infrastructure dans plusieurs pays. Les responsables du Pentagone disent que l'objet abattu au-dessus de l'Alaska est tombé dans les eaux gelées. Ils s'attendent à ce qu'il soit récupéré plus rapidement que le plus gros ballon abattu au-dessus de l'océan Atlantique. De leur côté, les forces canadiennes sont en train de récupérer l'objet abattu au-dessus du territoire du Yukon.
C'est avec cette mélodie de Taylor Swift que nous recevons cette session d'information. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et à tout à l'heure.
VOA Afrique, les infos.
En Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.